Bonjour, je m'appelle Lucie, je viens de Udiménil, près de Granville. Je voulais juste témoigner parce que je suis en train de m'installer sur une ferme de 60 hectares où on est 6 actifs agricoles et que on n'est pas dans l'utilisation de robotique ou de numérique à tout va. Et par contre, on crée de l'emploi. Et je voulais vous inviter à lire un livre qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines ». Qui a été écrit par l'atelier paysan qui organise l'autoconstruction d'outils low-tech avec les agriculteurs dans le but qu'ils se réapproprient tous leurs moyens de production. Merci, au revoir.
Oui, bonjour, Dominique de Pouillé-les-Vignes. Je viens d'écouter l'émission comme chaque jour avec beaucoup de plaisir. Un auditeur parle de la pollution nocturne. Serait-il possible de faire une émission dans ce sens? La ville où j'habite est très respectueuse en éteignant les lumières la nuit. Mais une grande surface sur la commune prétend ne pas pouvoir éteindre ses lumières à cause des assurances. On se croirait à Las Vegas. Merci à vous. À bientôt.
Bonjour La Terre au Carré, je suis Nancy de l'association La Pache à Sainte-Hélène dans le Morbihan. Une asso qui s'est donnée comme objectif de créer un festival engagé autour de la BD, pas n'importe quelle BD en fait. On souhaite mettre en avant la BD de reportage, documentaire, d'histoire, de société, à l'image de la BD Algue Verte par exemple qui a fait pas mal parler en Bretagne. Et ce festival c'est La Vie en Bulle, ça sera les 5 et 6 février prochains à Sainte-Hélène dans le 56. Il y aura 20 auteurs, 5 conférences, des tables rondes, ateliers de dessin, expos, concerts. Et par exemple, nous recevrons Guénola Morizur, autrice de Bleu Pétrole et de Tara, un été zéro déchet, avec l'association The Sea Cleaner, pour parler marée noire et océan de plastique. Plus d'infos sur tout le programme sur le site www.lavieambulle.com. Merci.
Oui, bonjour, c'est Myriam de Savoie. Chers automobilistes, autocaristes, bref, conducteur de tout véhicule, s'il vous plaît, soyez gentils lorsque vous êtes en stationnement, tout en pianotant sur vos smartphones, de penser à couper votre moteur. Cela pour éviter la pollution sonore que subissent les habitants et les passants aux alentours. La pollution électrique et électromagnétique des outils numériques, la pollution due au gaz d'échappement, la pollution due à la climatisation. Il suffit de prendre conscience qu'il s'agit là de 4 pollutions inutiles, trop souvent répétées, et cela parfois jour et nuit, et parfois pendant plus d'un quart d'heure. La planète et ses habitants vous remercient en attendant qu'il y ait une réglementation à ce sujet. Merci, au revoir.
Et merci pour vos messages et pour répondre à Dominique qui nous suggérait un sujet sur la pollution nocturne. Eh bien, ce sera justement l'un des thèmes que nous aborderons dans les Pyrénées à l'occasion de notre première émission. Ce sera en direct du Pic du Midi lundi 31 janvier prochain. Donc, notez bien cette semaine spéciale hiver du 31 janvier au 4 février, donc, dans le massif pyrénéen. Et en attendant, je vous redonne, bien sûr, le numéro de téléphone du répondeur, le 01 56 40 45 45 pour vos messages. On parle de zoothérapie, de delphinothérapie ou d'équithérapie. Ces termes désignent des pratiques consacrées aux soins par le contact avec les animaux. Les bénéfices, justement, de la médiation animale ont émergé dans les années 60 à la suite de plusieurs études scientifiques qui ont été menées autour de la santé mentale. Depuis, les travaux se sont élargis à différents troubles et pathologies en montrant la capacité des bêtes à nous faire nous sentir mieux par des effets physiologiques ou psychologiques. Comment se développent justement ces pratiques et que nous dit la science sur les mécanismes exacts qui sont à l'œuvre lorsque nous sommes au contact des animaux? Les bienfaits sont-ils dus à l'animal lui-même ou à la relation que nous entretenons avec lui? Eh bien, c'est le sujet cet après-midi de notre Terre au Carré avec nos invités. Bonjour Laurence Paoli.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de communication dans le domaine scientifique. Vous avez collaboré avec le Muséum National d'Histoire Naturelle pendant plusieurs années. Et là, vous publiez ce livre, Ces animaux qui nous font du bien. Ça paraît aujourd'hui même chez Buchet Chastel. Marine Grand-Georges, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis Rennes. Vous êtes docteur en psychologie et maîtresse de conférences en éthologie à Rennes 1. Et vous avez publié en 2020 ce livre, L'animal et l'enfant, avec trouble du spectre autistique, une relation au quotidien aux éditions de l'Harmattan. Et puis Jérôme Michalon est également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex des studios de France Bleu Saint-Étienne-Loire. Vous êtes sociologue au CNRS, spécialiste des rapports entre humains et animaux. Au sein du laboratoire Triangle à Lyon, vous avez beaucoup travaillé sur la protection animale et vous avez consacré votre thèse de sociologie aux soins par le contact animalier. On va donc se retrouver dans un instant pour essayer de comprendre comment fonctionne tout ça, cette médiation animale, et bien sûr les questions auxquelles vous allez répondre de la part de nos auditeurs sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'application mobile France Inter avec les notes vocales. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
14h30, on passe au vert.
Un champ de roses au fond de l'océan. Je vous emmène plonger à la découverte d'un magistral récif de corail près de Tahiti en forme de rose aplatie donc.
Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Fabrice Desmaz à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Ça va Navarro ? Je suis Patrick, je suis ici suite à un accident de moto.
On peut pas, tu te parles ?
Le choc de l'accident a provoqué un grave traumatisme crânien. Les muscles de son dos sont crispés en permanence. Et il souffre d'importantes pertes d'équilibre.
Parfait, ça va ?
Ça va.
Alors, je te laisse t'installer le plus confortablement possible. Ça
ici,
va nous permettre.
Les séances de kinésithérapie utilisent le mouvement du pas du cheval.
De par la relation avec son cheval, petit à petit, on l'a vu s'ouvrir sur le plan corporel, mais surtout, après, sur le plan psychique. La transformation est incroyable parce que à son arrivée lundi, on avait un Patrick qui était très renfermé. Et petit à petit, au final, il s'est de plus en plus ouvert. On l'a vu sourire, on l'a vu rigoler, on l'a vu faire des traits d'humour. Enfin voilà, on a découvert le vrai Patrick.
Le cheval, ça m'apporte un bien-être profond. Quand je fais du cheval, je fais qu'un avec lui. Et je me sens très bien.
Ça s'appelle donc l'hypothérapie, un exemple d'un centre de rééducation. C'était en Lozère, le soin avec les chevaux entre autres, mais c'est largement, plus largement, les bienfaits du contact avec les animaux dont nous parlons. Dossier cet après-midi donc avec vous, Laurence Paoli, l'éthologue Marine Grand-Georges et le sociologue Jérôme Michalon. Vous avez donc mené l'enquête, Laurence Paoli, sur ces animaux qui nous font du bien. C'est ce livre chez Buchet-Chastel. Est-ce qu'on peut aborder ce sujet dans notre pays sans immédiatement susciter de l'ironie, voire de la suspicion? Est-ce qu'on prend ça au sérieux, en fait ?
En fait, c'est pour ça que je me suis lancée dans ce livre. C'est parce que je trouvais que les animaux, enfin, par expérience personnelle et en voyant ça autour de moi depuis des années, ayant travaillé dans des parcs zoologiques très longtemps, j'avais conscience parfaitement que les animaux nous faisaient un bien fou. Mais je me demandais comment effectivement passer du côté un peu sympa de la chose, un peu ludique, un peu on en parle, mais on en parle entre initiés, et puis c'est pas un sujet sérieux, à quelque chose de beaucoup plus profond et qui pouvait... je voulais témoigner en fait de ça, d'où le livre. Et vous avez raison, c'est pas si simple en fait. Mais en revanche, quand j'ai commencé à enquêter, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de gens extrêmement sérieux et très convaincus, comme Marine Grand-Georges, Jérôme Michalon, Christophe Blanchard, Georges Chapoutier, enfin des tas de gens comme ça qui travaillent sur ce sujet depuis toujours et qui le prennent très au sérieux. Et quand j'ai interviewé tous ces gens qui m'ont parlé de leur animal de compagnie, c'était assez étonnant parce qu'on voyait que la parole se libérait et qu'ils étaient tellement contents de pouvoir me raconter sans être jugés les relations très fortes qu'ils entretenaient avec leur animal que c'était très réconfortant. Et c'est ça d'ailleurs qu'on retrouve dans le livre, c'est ces paroles fortes de ces gens qui témoignent sans honte. Et d'ailleurs, quand j'ai demandé s'ils voulaient que je change leur prénom, ils m'ont tous dit non. Oui. Je m'en fiche qu'on me reconnaisse parce que j'assume complètement.
Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui font de la médiation aujourd'hui et qui n'y croyaient pas d'ailleurs au début. C'est le cas de Delphine que vous présentez, qui est monitrice éducatrice au début de l'ouvrage et qui au départ était...
Alors, elle fait pas de la médiation, mais elle utilise la médiation, mais elle y croyait pas du tout. Elle s'occupe beaucoup d'enfants très handicapés, polyhandicapés, à Angers, au centre des Capucins. Et effectivement, la médiation ne fait pas partie des choses qu'on propose dans ce centre, mais les Blues Roses, qui est une association, a proposé différentes choses. Alors, il y avait de la musicothérapie, de l'art-thérapie et de la médiation animale.
Donc, elle a pu observer que ça fonctionnait.
Exactement. Et ils ont choisi la médiation animale. Ça fait maintenant des années et elle est toujours bluffée.
Jérôme Michalon, il y a donc de la science aujourd'hui sur cette question, vous qui avez fait votre thèse autour de ce sujet.
Oui, tout à fait. Mais il y a de la science depuis le début, j'ai envie de dire. Hein. Il y a de la science depuis à peu près les années 60. Hein. À partir du moment où on a essayé justement de constituer ces pratiques comme des pratiques spécifiques, hein, voilà, qu'on pouvait nommer d'une certaine manière. Donc là, vous avez mentionné la zoothérapie, la médiation animale, etc. À l'époque, c'est le pédopsychiatre Boris Levinson qui lui a parlé de PET facilitated psychotherapy. Voilà, dans un article de 62, oui, voilà, qui est considéré un peu comme une expérience pionnière. Il racontait justement comment avait démarré un petit peu tout ça pour lui, voilà, dans son expérience de thérapeute qui suivait un enfant qui était mutique, avec qui il n'arrivait pas à entrer en relation. Et il explique dans cet article notamment comment un jour le hasard a fait que les parents de cet enfant l'ont amené un petit peu plus tôt au rendez-vous. Et Levinson, qui avait pour habitude de sortir son chien entre plusieurs séances, a été surpris par cette arrivée précoce et n'a pas eu le temps en fait de cacher, de mettre son chien dans une autre pièce. Et donc il y a eu cette interaction entre cet enfant donc mutique qui avait vraiment du mal à sortir de sa coquille, même avec le thérapeute, et donc ce chien dont la présence c'était un peu inopiné, et ça a suscité de l'intérêt pour l'enfant, voilà, qui n'a pas fui l'interaction, qui est même un peu rentré en interaction avec ce chien qui est venu lui faire la
fête. Et après, donc, il a inclus dans les séances de psychothérapie. Exactement. Qu'il menait, ouais, avec des enfants perturbés. C'est aussi ce que vous racontez, Laurence Paoli. Marine Grand-Georges, vous avez-vous une expérience aussi très intéressante en tant que clinicienne dans ce domaine, donc, de la médiation animale? Vous menez en particulier des recherches sur le lien entre les enfants avec troubles du spectre autistique et les animaux?
Oui, complètement. Alors, ça fait 15 ans que je me pose la question de quel est l'apport des animaux pour ces enfants qui ont des difficultés de communication, et puis surtout comment ça marche. Parce qu'on a un faisceau de preuves qui aujourd'hui nous montre que l'animal au quotidien peut aider ses enfants à mieux communiquer, à être moins stressé, à diminuer le stress parental et donc avoir une meilleure cohésion familiale. Mais on veut aussi savoir comment ça marche. C'est pas le tout d'observer ce qui est bénéfique, mais y a-t-il des explications scientifique derrière ce phénomène qu'on observe parmi plein d'anecdotes, mais aussi dans différentes recherches.
Bon, et vous en trouvez des explications vraiment scientifiques aujourd'hui là-dessus ?
Alors justement, il y a plusieurs pistes. Il y a des rôles physiologiques. On a montré que interagir avec l'animal va changer notre expression hormonale, c'est-à-dire que le cortisol, qui est l'hormone de stress, elle va diminuer quand on est en présence d'un animal. L'ocytocine est plus sécrétée si on regarde son chien dans les yeux, cette hormone de l'attachement. Donc voilà, il y a des fondements physiologiques. Et puis il y a aussi des fondements psychiques. La présence d'un chien ou d'un autre animal. C'est un être différent, on apprend l'altérité et on apprend aussi à être avec quelqu'un qui ne nous juge pas pour ce qu'on est, par exemple.
Allez, je pense qu'on aura beaucoup de témoignages au cours de cette émission, les messages bien sûr sur franceinter.fr, et on verra exactement quelques exemples tout à fait concrets qui nous racontent cette façon dont les animaux nous font du bien. C'est le dossier aujourd'hui de la Terre au Carré.
Que j'y vois que toi dans les deux, que je tiens plus très droit. Moi sans toi j'ai l'air un peu louche, mine de rien je tiens pas bien sûr. Moi t'as l'eau à la bouche,
Vertigo et la voix de Juliette Armanet.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Là-bas, c'est Floki. C'est un mâle de 3 ans. On a Prince, le noir et blanc, qui a 3 ans aussi.
Ici, ce ne sont pas les clients qui sont rois, mais les chats. L'idée vient du Japon, où les petits logements ne permettent pas d'avoir d'animaux domestiques. Il faut donc en profiter dans les cafés.
C'est vraiment un travail à plein temps. Il faut s'en occuper, il faut les nourrir, mais aussi faut les câliner. Oui, c'est vraiment une passion.
Un bar à chats, ça se passe à Rouen, entre autres, le café Moustache, reportage de France 3 Normandie en 2019. Laurence Paoli avec ce livre, donc Quand les animaux nous font du bien. Est-ce que ça vous semble anecdotique, ça, justement, les bars à chats, ou est-ce que ça peut représenter un véritable intérêt pour les personnes qui s'arrêtent une heure pour caresser des chats dans un bar?
C'est un mélange. En fait, je trouve que c'est relativement anecdotique. Et en même temps, j'imagine que quand on n'a pas du tout d'animaux, ça peut faire du bien. Mais la question que je me pose, moi, c'est est-ce que ça fait du bien aux chats? En fait, c'est ça. C'est plus ma question est plus
on
là.
On a d'ailleurs une question de Nathalie à l'instant sur franceinter.fr qui dit « Je trouve que dans l'absolu, la zoothérapie est une formidable opportunité si ça a des bienfaits sur les personnes. Mais c'est anthropocentré. Est-ce que ça ne se fait pas au détriment de l'animal, toujours au service de l'humain? Finalement, effectivement, c'est dans un seul sens où on a montré que peut-être ça peut avoir des bénéfices sur l'animal qui, au fond, lui, n'avait rien demandé.
En fait, ça dépend des animaux. Si vous prenez le chien avec lequel on a une histoire quand même commune très très longue, c'est le premier animal qu'on a domestiqué. Normalement, lorsque vous amenez un chien pour faire une séance de zoothérapie, vous êtes donc son maître. Et donc le chien participe avec vous avec quelque chose. Il va essayer de vous faire plaisir. Donc il est normalement dans une dynamique positive. Avec un chat, le chat, on va pas le forcer à faire quelque chose, mais sa présence va amener quelque chose. Alors je pense moi que les animaux, ça leur pose pas plus de problèmes que ça, et au contraire, dans certains cas, ils sont très heureux. En revanche,
mais en vrai, on n'en sait rien. Pardon, vous pensez, mais est-ce qu'il y a des études qui ont été menées aussi du côté des animaux? Est-ce qu'on peut éventuellement le savoir?
Alors ça, et l'évaluer,
je pense pas qu'on puisse l'évaluer de cette façon-là, mais ce qui est certain, c'est que le bien-être des animaux est pris de plus en plus en compte dans la médiation animale et dans la zoothérapie. On sait maintenant que lorsqu'on pratique la médiation animale, il faut avoir plusieurs animaux, qu'il faut laisser les animaux se reposer et se récupérer. Et surtout, si vous voulez, c'est comme avec votre chien, vous. Normalement, vous connaissez quand même votre animal et vous savez interpréter ce qu'il manifeste lorsqu'il est stressé, lorsqu'il est heureux. Et un bon médiateur avec l'animal, c'est parfaitement voir quand son animal atteint le point de rupture et qu'il n'a plus du tout envie, et le retire du jeu. À ce moment-là, il ne lui fait pas refaire des exercices derrière.
Jérôme Michalon, vous qui êtes très intéressé par la question du bien-être animal, est-ce qu'effectivement l'animal, pour prolonger la question de cette auditrice, ne devient pas quand même un outil au service de l'homme dans tous les cas qu'on peut décrire là?
J'avais envie de dire, est-ce qu'il ne l'a pas toujours été?
C'est le principe de la domestication.
On parle de chevaux.
Quoi.
On parle de chevaux, on parle de chiens majoritairement, donc ce sont des animaux domestiques qui en fait ont connu quand même un nombre assez important d'utilisations, dont la médiation animale est sans doute peut-être la forme la plus light, la plus, en tout cas la plus, celle qui reconnaît le plus une forme d'individualité à l'animal, celle qui engage une forme de bienveillance à son égard. Le fait précisément qu'on se questionne sur le bien-être de ces animaux témoigne du fait que voilà, on est dans une forme de travail certes, mais où il y a un souci, un réel souci de l'animal et de ce que ça va générer sur lui.
Marine Grand-Georges, de votre côté, comment vous répondez à ça, vous qui êtes encore une fois, je le rappelle, clinicienne et qui observez aussi vraiment des résultats très intéressants auprès des enfants autistes en particulier?
Alors ça clairement, au niveau du côté du bien-être animal, c'est une question que les chercheurs mettent maintenant en avance. Nous, on est en train de finir un travail sur justement le bien-être des équidés en médiation. Et on montre que, clairement, les praticiens ont à cœur, dans cette pratique de médiation, de faire attention à leurs animaux et à de leur offrir des conditions de vie qui sont correctes. Et il y a une différence dans la gestion des chevaux, notamment en centre équestre, et les chevaux de médiation animale. Ils sont pas traités de la même façon. Il y a une ouverture à cette question de cette bien-traitance.
Mais auprès des enfants, c'est le chien plutôt qui entre en jeu que le cheval?
Alors, pour ces enfants avec TSA, l'animal à la maison, ça va être beaucoup le chien. Et notamment le chien d'éveil, qui est un chien éduqué spécifiquement pour ces enfants.
Donc, pour le trouble du spectre autistique.
Voilà, tout à fait. Et après, sur des activités extérieures qu'on peut retrouver, le cheval, c'est l'animal le plus populaire. Par exemple, il y a à peu près les 3/4 des structures qui accueillent ces enfants avec TSA qui proposent des activités avec le cheval pour ces enfants.
On va écouter justement un reportage de France 3 à Albi dans le Tarn autour des enfants autistes et des chiens.
Mathis, à toi, tu en prends un ?
Avec l'aide de l'institutrice, ce jour-là, c'est Needle, un jeune labrador qui dispense le cours de français.
Après demain, après.
Plusieurs fois par semaine, ce chien dressé à la médiation retrouve ses enfants atteints d'autisme pour qu'ils puissent apprendre à leur rythme.
On va agir sur le chien et du coup, il y a un attrait. Là, les étiquettes sur le chien, ça permet. Mathis, c'est pas sûr qu'il serait passé au tableau s'il n'y avait pas eu le fait d'aller chercher sur le chien, d'aller coller sur le tableau.
Au contact de Needle ou de son compère Gandalf, les jeunes garçons s'éveillent, s'ouvrent et développent ce sens de la communication qui leur fait souvent défaut.
Gandalf, il sert surtout à rassurer les enfants dans ce lieu, qui est l'hôpital, qui est quand même assez angoissant. Et on l'utilise parfois aussi comme ça sur des ateliers bien spécifiques. Donc là, c'est le toilettage, c'est pour aussi pouvoir travailler sur l'hygiène des enfants par transposition. Martin, qui a des problèmes de communication, de langage verbal, ça l'a aidé quand même à pouvoir s'ouvrir et communiquer avec nous.
Voilà, Marine Grand-Georges, est-ce que ça fait écho à vos travaux, vous qui les avez réalisés auprès de ces enfants de 6 à 16 ans, la présence d'animaux de compagnie, donc c'est vraiment très flagrant les changements que ça peut opérer?
Complètement. En fait, l'animal sert vraiment de vecteur de motivation à faire des activités que spontanément ces enfants feraient pas. Une facilité aussi à communiquer. Et nous, on travaille aussi vraiment sur le rôle de l'attention visuelle. Être capable de se regarder, de comprendre les émotions. Et ces enfants avec troubles du spectre autistique ont plus de facilité à regarder les yeux des animaux qu'à regarder les yeux de leur père, de leurs parents, de leurs copains. Et on se demande à quel point pouvoir regarder l'animal peut les aider à mieux communiquer.
Et donc, en dehors de votre équipe, ça a été largement reproduit et démontré à nouveau ?
Oui, complètement. C'est des travaux qui ont été refaits notamment aux États-Unis par différentes équipes et qui ont montré exactement les mêmes résultats. Donc ça donne une vraie valeur à ces travaux et à ces résultats.
Laurence Paoli, vous citez beaucoup d'exemples dans votre livre. Celui par exemple de Mathéo, un enfant polyhandicapé atteint d'une maladie génétique rare. Et lorsque son état de santé se dégrade, la médiation animale va commencer. Et là, il y a aussi des résultats qui sont assez spectaculaires. Hein.
Très spectaculaires parce que il était à l'hôpital, il est resté à l'hôpital très longtemps, son état de santé s'est dégradé en 2018, il est polyhandicapé, c'est-à-dire qu'il ne peut vraiment rien faire tout seul, il a du mal à fixer son regard, il ne peut rien saisir seul, et les parents ont vu qu'à chaque fois que le chien venait dans sa chambre, Mathéo était détendu, était souriant, était heureux. Bref, quand il est sorti de l'hôpital, son état de santé s'étant stabilisé, ils ont décidé de continuer ses séances à la maison. Et en fait, l'énorme différence, c'est qu'il a effectivement, il est suivi par un ergothérapeute, un kinésithérapeute, il a des séances très fréquentes, toutes les semaines, plusieurs fois. Et là, il fait les efforts pour les gens. Or, avec le chien, ce que m'expliquait sa mère, il fait l'effort tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, il va essayer de décrisper sa main pour essayer de caresser le chien tout seul. Si on met le chien du côté où il n'est pas penché parce qu'il a tendance à s'effondrer d'un côté, il va se redresser tout seul pour aller de l'autre côté. Et tout ça, il le fait avec plaisir, il le fait volontairement. On n'est plus du tout dans le cadre d'un exercice. On arrive exactement au même résultat, mais dans la joie et le plaisir. Et du coup, ils viennent de prendre une petite chienne pour lui. Mathéo a très bien compris, il a attendu, qui s'appelle Stella. Là, Et on m'a envoyé des photos et on voit le petit garçon qui vraiment est très souriant avec la chienne sur lui. Et ils disent que ça lui change la vie.
Jérôme Michalon, on parle des bienfaits des animaux, mais finalement c'est les bienfaits de certains animaux. Là, on parle que de cheval, chien, chat depuis le début de l'émission. Est-ce que ça pourrait marcher avec un serpent, par exemple, un cochon, je sais pas, un cafard?
Alors, je sais pas si ça pourrait marcher, mais il n'y a pas eu, en tout cas, des masses de recherches sur ces espèces-là.
Mais pour, donc, il n'y en a que trois, en fait. C'est pas les animaux, c'est trois animaux. Alors, en particulier.
Je dirais même deux, en fait. Il y a beaucoup plus de recherches sur les chiens et les chevaux, et ça correspond, en fait, en gros, à la réalité des pratiques sur le terrain. En fait, le chat, c'est un mauvais professionnel de soins, en fait. Le truc, c'est qu'on peut pas lui faire des choses au chat. C'est un peu compliqué, si vous voulez. Alors que le chien et le chat, le cheval, on les a habitués depuis des milliers d'années à être dans l'interaction avec l'humain, à le comprendre et aussi en partie à faire les choses qu'on lui demande.
Laurence Pauli.
Oui, il y a eu quand même une... Alors, Jérôme Michalon a complètement raison, bien évidemment, mais en l'occurrence, s'occuper d'un animal vivant, quel qu'il soit, peut quand même vous apporter de vraies satisfactions et une projection dans l'avenir. Il y a une expérience qui a été faite au Japon, dans une maison de retraite, où on a confié des grillons à certaines personnes dans une petite cage, ils devaient s'en occuper. Ils se sont rendus compte que toutes les personnes avec grillons se sentaient beaucoup mieux au bout de quelques semaines, parce qu'ils devaient s'occuper d'un être vivant, s'en occuper tous les jours, le nourrir, l'entendre chanter, etc., et que ça changeait complètement les choses. Et pour en revenir au chat, effectivement, on ne peut pas faire quelque chose au chat, mais le chat ronronne spontanément, et on sait que le ronronnement du chat a des effets extraordinairement bénéfiques. Il a des effets bénéfiques parce qu'il vous calme, il fait baisser votre stress, alors il y a Valérie Ayache qui vient de sortir un bouquin là-dessus qui est assez remarquable, qui explique en fait toutes les possibilités du ronronnement et ce qu'apporte un chat à la maison.
Et vous dites bien, en conclusion du livre, que les animaux sauvages aussi nous font du bien, il suffit simplement aussi de prendre le temps de les observer. Hein.
Tout à fait.
Il ne faut pas les négliger.
Non, on parle d'énergie vitale, là. On parle de joie.
Allez, quand les animaux nous font du bien, dossier de la Terre au carré, cet après-midi.
France Inter. La Terre au carré.
14h32, Camille passe au vert.
Et une bonne nouvelle, je peux vous dire que ça fait du bien,
oui,
aujourd'hui.
On prend.
Vous savez que quand il s'agit de climat ou biodiversité, hein, c'est en général pour dire que ça ne va pas parce que ça ne va pas. Et le corail n'y échappe pas. Hein. La dernière fois que je vous en parlais, c'était en octobre, pour vous dire que 14% des récifs de la planète avaient disparu en 10 ans. Mais donc, voici cette découverte en plein Pacifique au large de Tahiti. Le probable plus grand récif profond au monde, au moins 3 km de long et jusqu'à 60 mètres de large. Vous êtes prêts? On descend avec le plongeur et photographe Alexis Rosenfeld.
Ouais, je suis bon moi. Ok. Over.
Et nous voici à 35 mètres de profondeur. Surtout, ouvrez bien les yeux.
La première chose qu'on commence à distinguer avant de voir le fond, c'est cette forme assez délicate, cette dentelle, et qui progressivement se transforme sur un champ de roses qui tapisse le fond de la mer à perte de vue.
Des coraux en forme de rose géante, visible jusqu'à 80 mètres de profondeur, où l'obscurité ne l'emporte pas encore totalement là-bas sur la lumière.
Le terme scientifique, c'est mésophotique, et plus joliment, on dit entre l'ombre et la lumière.
Ce qui fait que le corail, Porites russe et Pachyzeris surtout, n'est pas de toutes les couleurs vives hein, qu'on a tous en tête, mais plus dans les marrons ou roses pâles. Et sa forme aplatie s'explique aussi justement de manière... j'ai un peu trouvé quasi érotique.
Comme il a besoin de lumière, plus il descend, plus il s'ouvre, plus il s'écarte. Et en profondeur, il prend la forme de rose avec des grandes pétales.
Alors Alexis Rosenfeld de la mission One Ocean sous l'égide de l'UNESCO fait partie des chanceux à avoir pu admirer le spectacle. Il y avait aussi dans l'équipe des scientifiques, bien sûr, hein, dont une qu'on connaît bien à la Terre au carré, Laetitia Edouin, chercheuse CNRS au CRIOB basée à Moréa, qui n'avait jamais vu ça.
Moi, j'étais vraiment impressionnée par la taille des colonies, par l'état de santé dans lequel elles étaient. Quand on les regarde de près, vous avez 70-80% de recouvrement corallien. Il y a du corail partout, c'est une abondance de vie. Il n'y avait pas de signe de maladie.
Un récif donc en très bonne santé. Ils ont même pu voir les coraux pondre, ce qui témoigne de son énergie, de l'énergie du récif et de sa bonne dynamique.
Quand on découvre des zones comme ça qui semblent avoir été épargnées en quelque sorte des activités humaines et être passées au travers de toutes ces crises environnementales qu'on a, vraiment ça reste impressionnant de dire qu'il existe encore dans l'océan des zones comme ça qui semblent un peu pristines.
Alors, comment expliquer que ce récif soit intact quand beaucoup d'autres, et notamment à quelques kilomètres en Polynésie, beaucoup d'autres meurent, hein, les dramatiques épisodes de blanchissement? Eh bien, l'adage est bien connu et s'applique aussi en science. Pour vivre heureux, vivons...
cachés.
Qu'elle soit localisée plus dans les profondeurs du récif, c'est-à-dire en dessous de 30 mètres. C'est une des raisons pour lesquelles elle est protégée. Parce que on sait que quand il y a des forts épisodes de blanchissement, c'est vraiment lié à une combinaison à la fois de haute température et de forte lumière. Et quand vous êtes à 30 mètres, il y a un manque de lumière qui se fait ressentir. Donc du coup, ça va atténuer en quelque sorte les effets des anomalies de température.
Et permettre aussi de mieux se remettre s'il est touché malgré tout par le blanchissement, parce que, on le rappelle, les profondeurs malgré tout ne protègent malheureusement pas de tout. Profondeur très peu connue, Alexis Rosenfeld le rappelle.
On sait qu'aujourd'hui, l'océan n'a été cartographié qu'à 20% et qu'on connaît mieux la surface de la Lune et la surface de Mars que le fond de l'océan. Et il serait temps, à mon sens, d'aller explorer cette zone obscure avant d'essayer de l'exploiter et de la détruire.
D'autant qu'il y a un énorme potentiel là-dessous.
Il semblerait qu'il y ait beaucoup d'espèces nouvelles, non encore caractérisées, c'est-à-dire des animaux qui n'ont pas encore de nom et qui ont été aperçus, qu'il faudrait aller rencontrer.
De nouvelles missions sont prévues dans les mois qui viennent. Laetitia Edouin, elle, espère qu'un suivi pourra être mis en place, donc en fait financé, pour ce récif particulier qui prend désormais une place bien particulière dans ses recherches.
Oui, non, mais ça c'est sûr, j'ai envie de dire, c'est le début d'une aventure entre lui et moi.
Parce qu'il pourrait avoir un rôle clé pour comprendre certaines adaptations à certains milieux et donc en préserver d'autres, au-delà bien sûr de l'émerveillement résumé par le photographe sous-marin.
C'est waouh parce que d'abord c'est magnifique, c'est waouh d'avoir un récif corallien en aussi bonne santé, c'est waouh de voir un corail s'adapter comme ça à la profondeur, et c'est waouh parce que c'est d'une densité complètement incroyable.
Et si vous voulez vous aussi vous waouiser, allez voir les photos, elles sont sur franceinter.fr.
À la page de la Terre au Carré, entre autres, et c'était Camille Passauvert.
Laurence Paoli, est-ce que des poissons, par exemple, alors au-delà de la plongée sous-marine, d'être comme ça au fond de l'océan, à respirer doucement, etc., mais est-ce que les poissons peuvent participer à un éventuel bien-être humain?
Ça, c'est certain.
Vous parlez d'un poulpe dans le livre en Grèce.
Je parle d'un poulpe en Grèce, tout à fait. On m'a raconté cette histoire d'un poulpe qui a été apprivoisé. On le sait, les poulpes sont très intelligents, enfin les pieuvres. Et ce poulpe, visiblement, quand on m'a raconté l'histoire, avait été apprivoisé jour après jour par quelqu'un qui nageait et qui allait le nourrir. Et à la fin, en fait, il est monté, les derniers jours, il est monté à la surface et vraiment, il essayait d'établir le contact, vraiment. Et la personne était complètement, en gardait un souvenir complètement émerveillé, en fait. Alors que c'est quelqu'un qui a 69 ans, qui nage beaucoup. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans le côté gnangnan de la chose. Et il me disait, mais c'était magique, quoi. D'avoir ce poulpe à côté qui essayait de me toucher. Et clairement, c'était pas pour avoir de la nourriture, c'était pour établir un contact. On a effectivement repéré, pour revenir aux poissons, que des personnes atteintes d'Alzheimer, lorsqu'on leur met un aquarium, en fait, dans la salle de restauration ou de l'hôpital où elles se trouvent, ou de l'institut où elles se trouvent, ça les calme énormément, en fait, et ça les apaise. On le sait aussi que dans les salles d'attente, par exemple, de médecins, des endroits comme ça, par exemple, mon dentiste, lui, il passe des films de poissons sur un écran au-dessus de ma tête lorsque je suis allongée sur son fauteuil. Et je dois dire ça me permet de m'évader.
Marine Grandjean, qu'est-ce qu'on sécrète alors dans ces cas-là précisément? Ce bien-être, il s'explique comment?
On sécrète pas, on arrête de sécréter le cortisol, cette hormone de stress, et on a notre rythme cardiaque qui va s'abaisser. La simple présence d'un animal a cette capacité-là. On le voit là avec les poissons, mais c'est le cas aussi la présence d'un chat, d'un chien, ou même pour les non-phobiques, la présence d'un serpent ou d'un reptile. Cette présence d'autrui d'une autre espèce a vraiment cet effet anxiolytique.
Allez, quand les animaux nous font du bien, c'est le dossier de la Terre au Carré. D'autres illustrations dans un instant avec nos invités, cette enquête sur ces compagnons qui rendent nos vies meilleures. Sahari tised na nyene kunanguli genga wo asonunga sonunga yau tinjabot gilewai amen yanangu niensa yanga dantari. Yo ya ma khelal dembe mama na don tay sagu inambu. s'appelle Las Meropertulo.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Bonjour toute l'équipe de La Terre au carré. Moi c'est Arthur, j'ai à peine 30 ans. Le recours à la méditation animale, alors je n'en fais pas. Par contre, je trouve ça vraiment super qu'elle soit en pleine expansion. Je pense que le premier bénéfice réel du contact animal avec l'homme, c'est de se rappeler que l'homme est un animal. L'animal n'est pas inférieur à nous et l'animal fait partie de la nature. Ça pourrait nous rappeler que nous faisons partie de la nature. Et peut-être faire germer dans l'esprit des gens qu'il faut arrêter de puiser, de détruire la nature autour de nous pour que tout cela puisse continuer. Merci beaucoup.
Et merci à vous Arthur pour ce message reçu sur l'appli mobile France Inter. Laurence Paulier, vous voulez réagir à ce qu'il vient de nous dire Arthur ?
Oui, l'animal et nous faisons partie de la nature. Ce qui est sûr, c'est, je termine mon livre là-dessus en fait, j'étais en train de réfléchir à si, voilà, ouais. Baptiste Morisot dit exactement. Qu'en fait il faudrait rétablir des égards ajustés avec les animaux, c'est-à-dire commencer à entretenir des relations qui soient beaucoup plus justes avec eux et beaucoup plus équilibrées. Voilà. Donc,
Mais du coup, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec le message de Nathalie. Peut-être que Jérôme Michalon, vous pourrez réagir sur. Du coup, est-ce que c'est les traiter comme des égaux que de se servir, je mets des guillemets, mais quand même de se servir d'eux.
Je pense que effectivement, on aurait tendance à associer les personnes qui sont engagées dans la médiation animale à des gens qui sont dans des rapports un peu anthropomorphiques avec les animaux. Alors c'est pas tout à fait le cas, c'est-à-dire qu'il y a une vraie considération de l'animal, ça c'est clair. C'est pas n'importe quel type de relation aux animaux dont il est question. On parlait de s'en occuper, d'en prendre soin. Donc il y a vraiment du respect de l'animal qui est promu dans ces pratiques très clairement, mais c'est aussi l'intérêt de l'animal, c'est aussi parce que c'est un animal et non pas un humain. C'est-à-dire que c'est un animal non humain, donc avec des différences. C'est pour ça qu'effectivement, on pense qu'il ne juge pas, on pense qu'il nous regarde différemment, et c'est précisément parce qu'il a toutes ces qualités qui sont autres que celles qu'on rencontre chez les humains qu'il est intéressant en médiation.
Laurence Paoli.
C'est en fait, il faut aussi se poser la question autrement parce que on se dit médiation animale, on se sert des animaux, mais lorsque vous prenez un chien chez vous, lorsque vous prenez un chat chez et vous ne lui posez pas la question non plus. Donc, on peut aussi envisager à ce moment-là que vous vous servez de l'animal. Mmh. Donc, il faut quand même voir ça, effectivement, pour des relations réciproques de bien-être qu'on s'apporte mutuellement. Votre chien et votre chat, il est content de vivre chez vous, d'être aimé par vous, d'être promené par vous, d'être nourri par vous, de vivre au chaud. Et vous, vous êtes heureux d'être en sa présence. Donc, la médiation pousse ça un peu plus loin. Et effectivement, il faut être très vigilant sur la bientraitance des animaux. Mais c'est toujours le même processus.
Le bien-être, donc, avec les animaux. Et puis, ces animaux qui peuvent servir à des tâches tout à fait particulière, détectée par exemple, alors il y a plein de sujets là-dessus, hein, le diabète, le cancer du sein et plus récemment encore le Covid. On va écouter ce reportage de France 2, c'était en juin dernier à Marseille.
À l'école vétérinaire, Joy ne se trompe pas.
Oui, très très bien.
Un entraînement régulier pour repérer tous les variants. L'exercice est devenu pour elle un jeu.
Elle sait qu'elle va travailler, elle va rechercher le Covid. Donc, pour avoir de la saucisse, ça récompense. Et pour surtout avoir le jeu après jouer.
Ici, sur le port de Marseille, un chien des marins-pompiers renifle les passagers à leur descente d'un bateau.
Le chien va scanner un grand nombre de personnes très rapidement. Alors que le moindre test antigénique va prendre 20 minutes pour un résultat. Là, le chien aura scanné tout un équipage quasiment ou tout un effectif dans le même temps.
Des chiens sont en cours de formation en région parisienne, à Marseille, en Corse et à Bordeaux. Déjà à l'œuvre dans plusieurs pays étrangers.
Voilà, c'était l'école vétérinaire d'Alfort au début du sujet et donc Marseille avec le maître principal Eric du bataillon des marins pompiers de la ville, Laurence Paoli. Donc il y a des choses très intéressantes là-dessus. On gagnerait un temps fou à utiliser les chiens pour détecter justement le Covid.
Moi je suis partisante à 2000%. Je suis Dominique Grandjean et les posts qu'il fait et ce qu'il publie. Ils ont travaillé à Maison Alfort depuis des mois depuis le début du Covid en fait là-dessus. Ça n'est pas du tout utilisé en France. Je ne comprends pas. On voit les manifestations sur des parents qui disent que les contrôles sanitaires sur les enfants sont insupportables et ce que je peux entendre complètement, il suffirait, alors il faudrait un nombre de chiens conséquent certes, mais faudrait-il encore s'y intéresser officiellement suffisamment pour se lancer là-dedans? Il suffirait d'avoir un chien à l'entrée des écoles en fait le matin et le chien marquerait sur les enfants malades.
Et il serait capable de déceler tout.
Il ne saurait plus donner de la truffe. Il serait capable, a priori, alors oui, c'est pas infaillible à 2000%, enfin à 100%, mais je veux dire...
Fini les couvillons alors.
Ça serait fini les couvillons. Et dis ça franchement, et je vois Dominique Grandjean qui prêche pour ça, qui dit que vraiment ils ont complètement au point que les chiens qui peuvent déployer ça, ça n'est pas entendu, je ne comprends pas.
Camille, il y a des questions des auditeurs de la Terre au Carré.
Oui, Caroline nous écrit, il faut insister sur le fait qu'il faut un professionnel sérieux et bien formé pour participer à la médiation animale, sans que tous les chiens, parce que dit-elle, tous les chiens, pardon, ne sont pas aptes à faire cela. Mm-hmm. Et puis on a un message d'Eline également qui nous écrit, je vois avec mes voisins que leur chien est aussi ou surtout une bonne raison de parler de chien et donc de rencontrer les voisins qui sortent aussi le leur. Marine Grandjean, c'est aussi un bon outil de socialisation, bien évidemment.
Oui, en effet, en fait, l'animal a ce qu'on appelle un rôle de catalyseur social, c'est-à-dire qu'il va faciliter les interactions entre les gens. Je pense que vous avez tous testé le fait soit de vous promener avec un chien et qu'on vous regarde, qu'on vient de vous parler, ou avoir cette envie de vous approcher de quelqu'un qui a un animal qui a l'air sympa. Et puis je vais rebondir sur l'aspect des professionnels et du fait d'être formé pour la médiation animale. Oui, en effet, c'est important, même s'il n'y a pas de législation en France à ce jour. Il faut savoir que c'est une pratique qui nécessite des compétences de l'intervenant, du professionnel, mais aussi de l'animal. On ne va pas choisir n'importe quel animal qu'on va présenter à un public handicapé, par exemple.
Un auditeur de Lyon nous écrit, sans nous donner son nom, c'est pour ça que je ne le donne pas, de nombreuses personnes sans abri ont un chien pour des échanges de tendresse, pour se protéger lorsqu'ils dorment de personnes malveillantes. Certains sans abri se réchauffent même avec leur animal par temps de grand froid. Le chien ici n'est pas malheureux, il fait plaisir et soutient son maître. C'est un paramètre très important, Laurence Paoli.
C'est un paramètre vital. Vous avez une thèse absolument passionnante qui a été écrite par Christophe Blanchard sur le sujet parce que, en fait, les sans-abri, très souvent, ont un chien, surtout les jeunes. Et lorsqu'ils entament une démarche de réinsertion ou quand ils essayent de re-rentrer dans les cases, très souvent, on leur demande de se débarrasser de leur animal. Or, cet animal joue un rôle, fait famille pour eux. C'est pas qu'un chien. C'est la personne qui les réchauffe, effectivement, qui les accompagne, qu'ils aiment. C'est la personne qui leur laisse leur dignité d'être humain parce qu'ils s'en occupent, ils le nourrissent, ils s'en occupent parfois mieux qu'eux-mêmes. Et leur dire « abandonne ton chien maintenant qu'on va te remettre dans les bonnes cases », c'est absolument impossible, c'est déchirant. D'autant plus que le chien sert de médiateur justement pour aller les choper, ces gens-là. Et donc on est complètement à la ramasse au niveau des structures sociales actuellement. Alors maintenant on commence à s'intéresser à la chose. J'ai interrogé la Fondation Abbé Pierre qui m'a dit que ça y est, effectivement, ça commence à être pris en compte dans certains centres comme les Enfants du Canal. On commence à se dire effectivement qu'il faut prendre le maître et le chien, parce que le chien est un outil pour récupérer le maître et pour l'aider à se remettre sur ses pieds et pour le réinsérer. Et vous avez des associations qui s'occupent de ça. Vous avez Gamelle Plaine, vous avez Solivette, vous avez une autre association dont j'ai oublié le nom, évidemment.
Mais elle est dans le livre.
Effectivement. Ouais, voilà. Et il faut vraiment, vraiment travailler là-dessus. Quoi.
L'administration pénitentiaire également ouvre ses portes à des expériences entre des détenus et des animaux,
c'est,
des chiens,
c'est,
donc,
c'est
en l'occurrence.
C'est plus que des expériences, parce que maintenant, ça fait un certain nombre d'années que c'est mené. Et maintenant, ça y est, on est sur une majorité de prisons qui le font. Mais c'est à la, je dirais que c'est chaque prison qui décide, chaque directeur qui décide de le faire. Et effectivement, là aussi, le chien sert de réconfort et sert de médiateur pour aller récupérer des prisonniers qui sont en état de chute libre, on va dire, en état de désespérance. Et avec le chien, on arrive à leur reparler, on arrive à les récupérer et on arrive à leur faire travailler une réinsertion potentielle.
Quand les animaux nous font du bien, c'est donc le dossier de la Terre au Carré.
Quand on ne joue plus les marlous, je n'ai pas revu Capalou. Rien n'a plus, rien n'a plus vraiment le même goût. Viviane Leg a les cheveux blancs, elle regrette le noir et blanc. Pour autant qu'en emportement. Wow, wow, wow. Seigneurita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Seigneurita, dépêche-toi, je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma, on a fermé la Alhambra. Quand on voudrait bien retenir un tramway nommé Désir, Hollywood ne veut pas mourir. Marilyn aurait 50 ans, James Dean n'est plus un géant. Rien n'est plus vraiment comme avant. Wow, wow, wow. Seigneurita, dépêche-toi, je sens qu'il est bien tard déjà. Quand ma guitare a sous mes doigts les caprices d'une diva. Seigneurita, dépêche-toi. maintenant retenant le dernier sanglot. Tous les Indiens sont en VO à l'ouest du Rio Bravo. Rien ne va plus, rien ne va plus, même chez les gringos. Oh, oh, oh. Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra dans des relents de rumba. Señorita, dépêche-toi, je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma, on a fermé l'Alhambra. Señorita, dépêche-toi, j'ai oublié les camélias. Je n'ai pas le physique pour ça, alors danse pour moi.
Et Señorita, Christophe sur France Inter.
France Inter. La Terre au carré.
Je me pose une vraie question. Tous ces gens qui parlent d'animaux, ont-ils réellement vécu avec des animaux ? J'ai toujours eu 3 chiens, 2 chats, j'ai eu jusqu'à 10 chevaux à la maison dont je me suis occupée. Nous ne fonctionnons pas de la même manière. Nous ne sommes pas égaux, nous sommes différents et complémentaires. Et Dieu sait si j'ai aimé mes animaux. Merci, au revoir.
Laurence Pauly, je pense que vous êtes d'accord avec notre auditrice.
Hein. Complètement d'accord. Nous sommes complémentaires.
Vous avez des animaux, du coup ?
Alors moi, j'ai eu des animaux toute ma vie. Et mon dernier cochon d'Inde, c'était un cochon d'Inde, est mort pendant que j'écrivais ce livre. Voilà.
Allons bon. On parlait des chevaux, il y a des expériences dans les EHPAD aussi pour les personnes en fin de vie. Il y a des choses très impressionnantes. On fait rentrer vraiment le cheval dans la structure.
Là, vous parlez de Peyo.
Et même dans la chambre, exactement.
Ouais. Vous parlez de Peyo et d'Hassan Bouchak.
C'est ça.
Ouais, c'est très particulier quand même.
On voit les images sur YouTube, c'est impressionnant.
Bah, il semblerait que ce cheval, c'est quand même quelque chose d'une empathie extrêmement forte, on va dire, avec l'espèce humaine et qu'il aille spontanément vers des gens qui sont vraiment, en bout de course et qu'il se positionne à côté parce qu'on ne lui impose pas d'aller dans telle chambre ou telle chambre. Il choisit la chambre dans laquelle il va. Et quand il y va, il se pose à côté de la personne et il reste là. Il accepte d'être en contact. En plus, je crois que c'est un étalon, ce qui veut dire en plus que c'est normalement un cheval qui n'est pas facile.
Non, c'est le cas, il le dit, effectivement.
Et il reste très paisible, très calme, très au contact.
Jérôme Michalon, on n'a pas évoqué le rôle préventif des animaux dans le cas des maladies cardiovasculaires. Or, il est expliqué justement dans le livre de Laurence Pauly que c'était un tournant quand même dans ce domaine.
Oui, c'est le moment en fait où on est passé des recherches sur les effets psychologiques à des recherches sur les effets physiologiques. Et ces recherches-là, même si elles sont critiquables de plein de points de vue, qui ont permis effectivement de donner une visibilité plus grande à ces effets bénéfiques de la possession d'animaux de compagnie, souvent, et puis de l'utilisation de l'animal dans des protocoles plus thérapeutiques, on va dire. Mais il y a une zone d'ombre un petit peu dans ces recherches sur laquelle j'aimerais insister, c'est celle en fait des représentations culturelles des animaux en fait. C'est-à-dire que on a mis du temps en fait à se rendre compte que finalement les gens qui effectivement avaient des animaux de compagnie, effectivement ils avaient une bonne santé cardiovasculaire. Mm-hmm. Mais ce qui expliquait ça, c'était quand même beaucoup le fait qu'ils considéraient leur animal comme un membre de la famille. Et ça, c'était une variable très 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 explicative. Et tout à l'heure, effectivement, votre auditeur parlait de l'essai Covidog, voilà, de la détection du Covid avec les chiens. C'est vrai que on peut se demander si tout le monde vivrait très bien le fait d'être reniflé par un chien. Il y a des cultures dans lesquelles les chiens sont plutôt synonymes de saleté. Voilà, donc ça peut être aussi intrusif de ce point de vue-là. Et donc tous les bénéfices qui ont été décrits jusqu'ici, ils dépendent quand même, à mon avis, très fortement d'une représentation positive qu'on peut avoir de certains animaux.
Un message de Tommy de Saint-Malo sur l'application France Inter. Vous n'avez pas évoqué les chiens d'aveugle. Marine Grandjean, je crois que vous avez encadré des travaux sur les chiens d'assistance. Est-ce que ça rentre dans ce cadre-là ?
En fait, les chiens guides d'aveugle sont en effet un type de chien d'assistance et peut-être celui qui a été le plus mis en avant au départ et là où il y a eu une loi très vite sur l'encadrement de cette présence animalière dans les lieux publics. Et on a quand même pas mal de travaux de recherche qui portent sur ces animaux et sur les bienfaits dans le quotidien de ces personnes. Même si à l'heure actuelle, le curseur des recherches est un peu en train de glisser vers le chien d'assistance, notamment pour les enfants TSA.
Ouais. Donc pour les personnes évidemment déficientes auditives, pour les personnes en fauteuil roulant, tout ça c'est à partir des années 70, c'est ça Marine Grand-Georges ? Ça a été bien encadré depuis cette période-là ?
Oui, c'est ça. Ça a commencé à exploser dans les années 70, mais il a fallu attendre notamment l'année 2005 pour voir une loi qui reconnaissait le statut du chien d'assistance en France. Ouais. Donc il y a une dissociation entre le terrain et après la législation et la reconnaissance.
Jérôme Michalon, très rapidement pour terminer, l'industrie des animaux de compagnie, évidemment, s'est beaucoup emparée des études sur les bénéfices liés à ce rapport avec l'animal. Ça a été un problème justement dans les études scientifiques, c'est qu'elles soient financées par ces industries souvent.
Bah, d'un certain point de vue, on peut considérer que c'est un problème parce qu'il y a un biais évident. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment voulu valoriser celles qui avaient les recherches qui montraient des effets positifs. Ça, c'est sûr. D'un autre côté, on peut considérer que sans cet intérêt de l'industrie, personne ne se serait intéressé à cette question.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois. Merci aux équipes de France Bleu Saint-Étienne pour ce duplex. Et puis, Laurence Paoli, je renvoie nos auditeurs sur cet ouvrage qui paraît aujourd'hui même chez Bûcher Chastel. Quand les animaux nous font du bien, c'est l'enquête que vous avez mené sur ces compagnons qui rendent nos vies meilleures. C'est le sous-titre du livre. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci.
Merci Marine Grand-Georges. À très bientôt.